Père et de Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous venons de célébrer, il y a quelques jours, la fête de l'Assomption de Notre-Dame au ciel. Et nous l'honorons, régnant avec son Fils et notre Seigneur. Mais depuis son Assomption, notre Mère a daigné souvent visiter ses enfants encore sur cette terre. Entre autres, Notre-Dame est apparue pendant près de 40 ans au Losse dans les Alpes, à Sœur Benoît Rancurel, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Comme tous ceux qui ont vu Notre-Dame, Sœur Benoît était ravie de la beauté de notre Mère du Ciel, et elle n'avait qu'un désir, la voir et rester en sa présence. Or, vous savez peut-être qu'un jour, Notre-Dame lui a dit qu'elle serait privée de la grâce de la voir pendant quelque temps. On peut imaginer quelle tristesse a dû inonder Sœur Benoît. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Sœur Benoît avait rencontré quelques protestants qui lui ont demandé s'ils pouvaient se sauver dans leur religion. Or, Benoît n'a pas eu le courage de dire que leur religion était fausse, qu'elle ne pouvait pas les sauver et qu'il fallait suivre notre Seigneur et son Église. Elle a simplement répondu, « J'en laisse le jugement à Dieu. » Pauvre sœur Benoît, qui, pour n'avoir pas confessé la vérité, souffrira rudement de ne plus voir Notre-Dame pendant un mois. C'est qu'en bonne mère, Notre-Dame a voulu faire comprendre à sœur Benoît quel devoir nous avons de rendre témoignage à la vérité qui nous sauve. Prenons alors, chers fidèles, l'occasion de continuer l'explication du décalogue avec le 8e commandement. Vous ne porterez pas de faux témoignages contre votre prochain. Et nous verrons d'abord la partie positive, ou ce qui nous est commandé. Ensuite, nous verrons la partie négative, ou ce qui nous est défendu. Tout d'abord, le précepte positif de ce commandement est très simplement de dire la vérité, d'être vrai. Et cela, on peut le voir déjà au niveau naturel. L'homme a une intelligence qui est faite pour connaître la vraie. Cette vérité que notre intelligence veut connaître, la plupart du temps, l'homme la connaît grâce à l'instruction qu'il reçoit des autres. Et même à cause de la faiblesse de son intelligence, blessée par le péché originel, l'homme tout seul serait incapable de connaître toute la vérité que les autres lui disent. D'où la nécessité pour les hommes de dire la vérité, de la transmettre aux autres et à leur postérité pour le bien du genre humain. Mes chers fidèles, en tant que chrétiens, nous avons une raison de plus de confesser la vérité. Vous savez que notre Seigneur, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. » Or, notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité. C'est donc pour nous un devoir de proclamer, de confesser la vérité, et nous n'avons pas le droit de tromper les gens, parce que nous sommes les témoins de notre Seigneur, les porte-paroles de la vérité. Avec le catéchisme du Concile de Trente, nous pouvons préciser que ce précepte positif de confesser la vérité porte tant sur la langue que sur les écrits ou les livres et sur les actions. Donc, nous devons non seulement dire la vérité, mais aussi être vrais dans nos actes, c'est-à-dire que nos actions doivent refléter nos intentions, ce que nous sommes. Par exemple, un chrétien, pour être vrai, doit avoir une grande modestie dans ses vêtements pour montrer que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Maintenant, passons au précepte négatif de ce commandement, ou ce qui nous est défendu. C'est simplement l'obligation de ne pas mentir. Et cela est la conséquence logique de notre devoir de dire la vérité. Le catéchisme nous explique que ce devoir de ne pas mentir concerne en premier lieu tous ceux qui sont au tribunal et qui prennent part au jugement, surtout quand on y prête serment de dire la vérité. C'est d'ailleurs pour cette raison que le précepte parle de faux témoignage, qui a lieu surtout dans les tribunaux. Toutefois, ce commandement de ne pas mentir ne se limite pas aux témoins, aux accusateurs, aux accusés et aux autres dans les tribunaux. Mais aussi, il s'étend à tout homme et partout. Et comme nous avons vu que notre devoir de dire la vérité nous oblige dans les paroles, dans les écrits et dans nos actions, de même, nous devons éviter le mensonge par la parole, par les écrits et par l'action. Ainsi, le catéchisme énumère-t-il comme péché contre ce huitième commandement tout mensonge, la médisance, la calomnie, le fait de semer le désaccord entre les hommes et de ruiner des amitiés, la flatterie, l'hypocrisie, la dissimulation. Et bien sûr, tous ces péchés exigent une réparation, celle de rétablir la vérité ou du moins la réputation de la personne offensée. Or, ceci n'est pas toujours très facile. Chers fidèles, vous connaissez peut-être l'histoire de cette personne qui a fait quelques péchés de médisance et de calomnie. Elle vient se confesser et s'accuse. « Mon père, j'ai nui à la réputation de mon prochain en révélant ses défauts cachés et aussi par quelques mensonges. » « Et vous en avez fait réparation ?» demande le prêtre. « Mais non, je n'y ai pas tellement pensé. »« Or, il le faut, » dit le prêtre. « Que dois-je faire ?» demande le pénitent. « Vous irez prendre une poule, puis, ayant enlevé toutes les plumes, vous monterez au clocher. Là, vous laisserez tomber toutes les plumes, puis revenez me voir. » Et en fait ainsi, la personne revient voir le prêtre. « C'est fait, mon père. Eh bien, maintenant, allez ramasser toutes les plumes. » Mais c'est impossible, s'écrie le pénitent. Le vent a tout emporté. Je n'y arriverai jamais. Sachez alors que vous avez fait la même chose par vos médisances et vos calomnies. Pourtant, il vous faut faire votre possible pour ramasser toutes les plumes que votre langue a lâchées en rétablissant la vérité et en réparant la réputation de votre prochain. Au sujet des péchés contre ce huitième commandement, le catéchisme du Concile de Trente tient à préciser aussi qu'il faut éviter le mensonge dit joyeux ou officieux, car du mensonge pour rire au mensonge grave, la pente est très facile et rapide. Enfin, nous pouvons noter que si nous ne pouvons jamais mentir, il peut y avoir parfois des circonstances où la prudence nous fait garder le silence au lieu de proclamer la vérité, du moins pendant un certain temps. Pour terminer et pour illustrer ce devoir que nous avons de dire la vérité et d'être vrai, nous pouvons nous rappeler, chers fidèles, l'histoire du vénérable vieillard Éléazar qui nous est racontée par le deuxième livre des Maccabées. C'était pendant la grande persécution d'Antiochus Épiphane, qui voulait exterminer le petit reste des résistants fidèles du peuple juif. Devant l'ordre de manger des viandes que la loi interdisait, Éléazar s'y refusa et préféra le supplice. C'est alors que quelques amis, touchés par une fausse compassion, enlevèrent les viandes défendues et les remplacèrent par des viandes permises. Puis, ils vinrent engager Éléazar à en manger. Mais il n'y a rien de mauvais. Ces viandes-là sont permises. D'ailleurs, vous serez ainsi libérés de la mort et votre sagesse peut encore être utile au peuple. Non, Éléazar ne fit pas de compromis. Il n'accepta point de stimuler l'obéissance aux ordres du roi, mais il préféra la vérité et donna cette réponse. Une telle feinte ne convient pas à mon âge. Je ne donnerai pas à de plus jeunes un exemple funeste qu'il pourrait être tenté de suivre. Même si, en ce monde, j'étais délivré des supplices des hommes, je n'échapperai pas à la main du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant cette vie avec courage, je serai digne de mon âge. Si je termine ma vie par une mort honnête, avec un esprit prompt et avec courage, je pourrai donner aux plus jeunes un exemple. Et aujourd'hui, chers fidèles, nous avons justement cet exemple de son martyr, parce qu'il a voulu rester vrai. Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve, mais demandons la grâce à cette messe et à la Sainte Communion d'être vrai, de toujours confesser la vérité et ainsi d'être vraiment les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si pour cela, nous aussi, nous devrions souffrir le martyr comme les chrétiens en Orient en ce moment. Que Notre-Dame nous fasse comprendre notre devoir et qu'elle nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.